Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue en ce jour de mars 2021. Et oui, vous le voyez, c'est une fois n'est pas coutume, mais ici on est là pour la qualité de l'air, et on est là pour également avoir les bons gestes et les bonnes pratiques. C'est pour ça que vous nous retrouvez aujourd'hui masqués, en plus d'être casqués pour la radio, mais c'est extrêmement important. On parlait des bonnes pratiques, on parlait aussi des bons gestes, hein, puisqu'il faut tous se préserver, et c'est de l'attention de chacun envers les autres, tout d'abord, et envers soi-même, bien évidemment, pour bien faire. Alors, pour cette émission, c'est une émission spéciale. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, on n'est pas venu dans ces studios. C'est important de pouvoir faire aussi un point au bout d'une année de... Notre vie a quand même pas mal changé. Et dans cette vie qui a changé, on a tout un tas de nouvelles adaptations qui se sont imposées à nous et puis d'autres qu'on s'est mis à avoir en réflexion, qu'elles se soient sur le côté santé, puisque nos invités aussi sont là pour ça, côté législatif, réglementaire, où va-t-on ? Et puis, outre cet air intérieur dont on parle, on a aussi cet air extérieur dont on va évoquer. Alors moi, je voulais aussi démarrer cette émission par un petit coup, on ne peut pas appeler ça un coup de gueule, mais une petite remarque qui, au niveau de la qualité de l'air, m'a un petit peu agacé la semaine dernière. J'ai vu un reportage où il y avait une tendance qui était forte et qui se développait, à savoir qu'on continue de mettre et on rajoute des diffuseurs d'odeur assez forts dans des lieux, dans les magasins où on en trouve pas mal. Et notamment, j'ai vu cela et ça m'a fait bondir de ma chaise un petit peu quand même. Et dans un lieu quand même où on sait qu'il y a pas mal de pollution latente, ce sont des concessions automobiles et on vient rajouter encore déjà à ce qu'on trouve en termes, on sait que c'est chargé évidemment de tout un tas de polluants et là on en rajoute encore, donc juste passer ce message, la pollution, le traitement de la qualité de l'air, la mesurer, la calibrer et la traiter, c'est bien. Commencer par éviter de polluer, de surpolluer, de faire des millefeuilles, c'est peut-être encore mieux. Donc là, il va falloir que l'on soit extrêmement vigilant et que chacun fasse son petit geste quotidien pour cela, notamment. Et on sera tous à faire mieux et à être mieux, à respirer mieux. C'est important, et respirer, on le voit bien, les masques ne vont pas nous aider aujourd'hui, mais ils sont là pour nous aider d'une autre manière, pour ne pas se contaminer les uns les autres et se préserver les uns les autres. Alors, autour de ce plateau aujourd'hui, le plaisir d'avoir pu réunir tout d'abord Karine Léger. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, je vais bien. Malgré le masque et le casque, je vais bien, je vous remercie.
Alors Karine, dites-nous, qui êtes-vous ?
Alors, je suis directrice générale d'Air Paris. Je travaille à Air Paris depuis plus de 20 ans et donc sur toutes les questions de pollution de l'air et en particulier en ce moment où le lien entre pollution de l'air et Covid a été mis en évidence. Et à la fois parce que la pollution de l'air exacerbe en fait l'effet du Covid, mais aussi parce qu'avec toutes les mesures qui ont été mises en place, on a aussi des effets positifs, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, on en discutera, sur la qualité de l'air.
Sur la qualité de l'air. On y reviendra. On va détailler cela en suivant. Notre second invité, Nicolas Noël. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Dites-nous qui vous êtes Nicolas, outre le fait que c'est pas un critère de venir en tant que Nicolas à l'émission. Hein.
Effectivement. Moi je suis médecin immunologiste à l'hôpital Bicêtre à PHP où je m'occupe de, entre autres en ce moment, beaucoup de patients atteints du Covid. C'est pas à l'origine mon métier, sauf depuis un an, où je m'occupe principalement de patients atteints de problèmes immunitaires. Et je suis enseignant-chercheur en immunologie également à l'Université Paris-Saclay, où je m'occupe beaucoup des liens avec les étudiants en médecine, et je pense qu'on en reparlera.
On va en reparler, puisque tout cela, évidemment, c'est ce qui nous porte chaque jour. Et aussi, les informations gouvernementales sont liées à cela. Il faut faire attention. On n'est pas là pour s'amuser à mettre le masque. On est là, justement, pour être prudent et porter ce sujet. Notre troisième invité, un habitué de l'émission, Jean-Luc, comment allez-vous ?
Très bien, bonjour.
Alors dites-nous, représentez-vous.
Oui, bien entendu. Donc Jean-Luc Fugit, donc député du Rhône, enseignant-chercheur en chimie, donc en disponibilité pendant le mandat, de manière à être un vrai député et ne pas cumuler. Et puis par ailleurs, de manière bénévole, je préside le Conseil national de l'air, donc qui regroupe tous les acteurs qui... de près ou de loin, mais surtout de près, donc travaille à faire en sorte de pouvoir lutter pour améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur.
Et extérieur, on le rappelle, quelques chiffres, c'est toujours bon de les repositionner. La qualité de l'air est 5 à 10 fois plus dégradée à l'intérieur qu'à l'extérieur. On passe notre temps dans les lieux clos, et là c'est encore plus qu'avant. On parlait de 80-85% de présence. Avec ce, je dirais, ce Covid, ce télétravail également et tout ce qui est associé, on est plutôt à 90% de temps dans des lieux clos, et on comprend aussi que tous les concitoyens peuvent s'agacer un peu et ont envie de sortir. Et on leur dit, mais il ne faut pas hésiter, je dirais, à sortir et à aller se promener, mais il faut le faire dans les bonnes plages horaires qui sont définies, et il faut aussi garder les distanciations. On oublie peut-être un petit peu, on se dit on va aller faire du vélo, mais quand on fait du vélo l'un derrière l'autre, on déplace de l'air, et il ne faut pas être à un mètre derrière celui qui est devant, mais plutôt à une bonne dizaine de mètres pour faire attention. Alors, sur ces points, on sait qu'on vient de vivre un an avec le Covid, on sait qu'on va vivre encore longtemps avec lui, et on est de toute façon à vivre longtemps avec nos problématiques de l'air, puisque c'est celle-ci aussi qui nous intéresse en premier chef. Donc Karine, dites-nous un petit peu, par rapport à ces un an de vision, on ne va pas dire de recul, mais de vision pour Air Parif, qu'est-ce qui a pu être constaté? Est-ce que les niveaux de polluants ont évolué? De quelle manière? Et quel type peut-être de polluants ont peut-être pris plus d'impact que d'autres, et surtout, on a envie de savoir ça, on sait qu'on a réduit notre activité, et surtout, est-ce qu'on a eu des bénéfices par rapport à cela?
Alors, plusieurs choses. D'abord, au moment du premier confinement, on a eu un impact vraiment très fort sur la pollution atmosphérique, et notamment sur toutes les activités qui étaient touchées, donc le trafic, moins 30% d'oxyde d'azote, jusqu'à moins 50% le long du trafic. Les particules un peu moins, puisqu'en fait les sources de particules sont très diverses, des sources qui proviennent de l'agriculture, de l'industrie, du trafic, des réactions chimiques dans l'atmosphère, donc entre guillemets que moins 7%, avec malgré tout un épisode de pollution. Et ce qui est intéressant, c'est que ça traduit aussi, ça met aussi en évidence les activités qui n'ont pas été touchées au moment du confinement. Le trafic, il y avait toujours un peu de trafic, et l'agriculture. Donc ça aussi, c'est un enseignement qui est intéressant. Et sur les gaz à effet de serre comme le CO2, donc là, on parle de pollution atmosphérique, les polluants qui ont des effets directs sur vos santé, mais les sources de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique sont les mêmes, et là, on a eu moins 30%. Avec aussi des choses qui sont intéressantes sur des polluants entre guillemets émergents, même s'ils sont bien présents, avec des particules extrêmement petites qui peuvent être de la taille d'une molécule d'ADN. Et là, on a vu aussi moins 30% au moment du confinement.
Donc ces molécules, ou plutôt cette taille de particules, on sait très bien que plus c'est petit, plus ça rentre dans l'organisme.
Et plus ça reste.
Et ça reste, et ça peut en véhiculer d'autres par amalgame également.
Tout à fait. Donc des pistes aussi de recherche très intéressantes par rapport à d'autres polluants que les polluants réglementés. Sur toute l'année, on a eu une amélioration qu'on est en train de quantifier. Donc le bilan sortira au courant du mois de mai. On a eu une amélioration, mais cette amélioration, elle est conjoncturelle. Elle n'est malheureusement pas structurelle. Mais il y a une amélioration liée à cet effet du Covid, malheureusement, sur les activités économiques. Et toute la question, c'est finalement cette crise, comme le disent les Chinois, la crise, c'est à la fois un challenge et une opportunité. Est-ce qu'on utilisera aussi cette crise pour finalement changer certaines façons de procéder, en lien aussi avec la transition énergétique, pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre le réchauffement climatique?
Alors justement, on pourrait parler de nos mobilités, puisqu'on sait que c'est un facteur assez important de pollution ou de polluants en présence. Et outre la mobilité, il y a également nos logements. On sait que 40% de la pollution vient des logements, où la consommation d'énergie et tout ce qui est associé. Est-ce qu'on voit déjà, alors c'est vrai que c'est difficile là, peut-être, de faire un parallèle, mais on voit émerger aussi de plus en plus de voitures électriques. Rien qu'il suffit de sortir, et elles sont de plus en plus nombreuses et peut-être aussi de plus en plus sollicitées, puisque les industriels ont pris le pas de les proposer. Est-ce que ça se traduit par des mesures où on a des prémices d'impact, justement, de cela, où l'effet d'arrêt de cette circulation par la Covid ne nous permet pas encore d'en parler?
Alors, ça peut être testé avec des scénarios, notamment avec la modélisation. En fait, on peut modéliser schématiquement comment, en remplaçant une partie du parc par des véhicules électriques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans difficulté. Mais par rapport à ce que l'on a observé l'année dernière, en fait, on a un mélange de beaucoup de choses. On a un mélange de baisse du trafic, mais finalement un retour du trafic pratiquement à la normale dès le mois de septembre, puisque beaucoup de gens ne prennent aussi plus les transports en commun. Donc on a toujours du trafic de façon assez importante. On a aussi un déplacement en termes de mobilité. mobilité avec les autoroutes à vélo. On sent qu'il y a des choses qui changent beaucoup en termes de mobilité. Et dans ce qu'on a observé l'année dernière, c'est un peu compliqué encore de discerner la part vraiment de l'électrique par rapport à toutes les modifications que l'on a pu observer. Néanmoins, il y a un vrai challenge sur la mobilité. Avec aussi les questions par rapport au télétravail, où finalement, il y a moins d'aller-retour entre le travail et son lieu de vie. Mais néanmoins, il y a peut-être plus de trajets, y compris en voiture, autour de son lieu de vie, pour les loisirs, même si c'est un peu en stand-by, ou pour faire les courses, etc. Donc, il y a plein de questions, en fait. Cette situation vraiment inédite pose plein de questions, y compris en termes de mobilité.
Et dans les mobilités, on peut aussi remarquer le fait qu'on souhaite, et vous le disiez, ne plus forcément prendre les transports en commun qu'on prenait d'habitude, parce que si on parle ici, sur Paris, du métro ou du RER, on se dit qu'on va être confiné avec beaucoup de personnes, donc on préfère prendre sa voiture. Et finalement, ça devient plus compliqué par rapport à cela. Donc, cette qualité de l'air, ce confinement, il faut vraiment qu'on y fasse attention et aérer. Moi, ce que je voudrais aussi relever, c'est du point de vue des services de santé. On va passer à Nicolas, si vous le voulez bien. Justement, vous, on peut dire que vous étiez au cœur de cette vague, hein, puisqu'on ne peut pas parler autrement. On a eu jusqu'à 7400 personnes en réanimation en France. Là, on est à 4400, je crois, et on s'inquiète de cette progression. Au niveau des services de santé eux-mêmes, comment ça a été appréhendé, vécu de l'intérieur? Parce que on parle beaucoup de vous, on vous remercie infiniment, et moi aussi, au travers de l'émission, je tiens à appuyer tout ce que vous faites au jour le jour, parce que c'est des conditions qui sont compliquées. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place, changer dans vos peut-être pratiques habituelles, et qu'est-ce que ça a amené à réfléchir pour faire mieux encore après?
Ça a changé beaucoup de choses, hein, de toute façon, cette situation. Pour les hôpitaux, pour la médecine ambulatoire également, et pour l'ensemble du système sanitaire, et évidemment pas que pour le système sanitaire, hein, c'est quand même aussi important de dire que, voilà, moi, en tant qu'acteur de santé, je vais parler de ce qu'on a vécu, mais enfin, on n'est pas les seuls, loin s'en faut, à avoir vécu cette vague, quel qu'en soit le niveau et le moyen. On a vécu ça de manière, évidemment, complètement inédite, hein, ça c'est rien de le dire, en voyant ce qui se passait d'abord en Chine, puis en Italie, puis quand ça a commencé à arriver par l'est de la France, on a commencé vraiment à prendre conscience qu'il allait se passer quelque chose d'assez terrifiant. Et je me rappelle très bien de cette espèce de moment où on a l'impression que la vague se retire. Vous savez, quand on est sur la plage, qu'on voit qu'il y a un rouleau qui va arriver, la vague commence à se retirer, ça prend du temps, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a une espèce de silence assourdissant comme silence. Et ensuite, d'un seul coup, ça tombe. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on s'est organisé sur la première vague principalement? C'est qu'on a dû, à ce moment-là, inventer des systèmes qui n'existaient pas. On a dû demander à des chirurgiens, d'une part, de laisser leur service et de laisser leurs patients, hein, également, et puis de laisser leur lit, à des infirmières de chirurgie de faire de la médecine et de la médecine de pointe, hein, parce que la situation du Covid, dans certaines situations, malheureusement, peut être une situation extrêmement préoccupante, hein, pour les patients. On a fait de la réanimation dégradée, puisqu'on parle effectivement au pic de la première vague des 7400 patients en réanimation, parce qu'on n'avait pas beaucoup plus de lits à ce moment-là, et qu'en réalité, ce qui s'est passé dans les services d'hospitalisation conventionnelle était en réalité de la réanimation sans les moyens, hein, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, et avec d'un seul coup le fait de devoir faire venir des aides d'étudiants qui étaient en disponibilité pour recherche, par exemple, etc. Ça, c'est la partie pratique de ce qui s'est passé, et en fait, on vit depuis un an maintenant sur cette espèce de situation qui, depuis, s'est pérennisée, qui est devenue une habitude, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a notre travail habituel, tous, hein, tous les acteurs de santé, et on a le Covid en plus, et le Covid n'est pas réellement... Enfin, il est intégré dans nos activités, mais en fait, il double ou triple en fonction de la situation le travail normal. Et ça s'en ressent sur la capacité de prendre en charge le reste de la situation. Alors ensuite, comment est-ce qu'on a vécu ça? Eh bien, évidemment, il a fallu, si on voit par rapport à l'air, se dire que les chambres hospitalières, on s'est rendu compte, hein, n'étaient pas assez ventilées, en tout cas pas dans tous les services. Et donc ça, c'était quand même quelque chose qui était extrêmement important pour éviter la stagnation en aérosol dans certaines situations, particulier dans les services de soins critiques. Dans les consultations, on s'est rendu compte, hein, moi je prends pour exemple, je me suis rendu compte que ça fait 8 ans que je consultais dans un box sans fenêtre. Je ne m'étais jamais rendu compte que c'était potentiellement important. Et puis à la lumière de, cette situation, moi qui maintenant vois aussi beaucoup de patients en post-Covid, je me dis mais finalement... j'ai pas de fenêtre derrière moi, j'ai pas d'aération dans mon box et je suis loin d'être isolé. Et encore, je pense que les médecins dans les hôpitaux, par exemple, hein, font partie de ceux qui ont peut-être les meilleures conditions. Les assistantes sociales, les psychologues, les secrétaires, on regarde encore un petit peu moins s'ils n'ont pas des bureaux borgnes.
Et dans la réglementation française, d'ailleurs, au niveau des bureaux, quels qu'ils soient, hein, on ne peut pas être dans un bureau sans fenêtre.
Et voilà, nous, on ne connaît pas cette partie-là de réglementation. Je pense qu'on est loin d'être des cas isolés, évidemment, à l'hôpital. Hein. Ça, c'est pareil dans toutes les zones de travail. Et puis, un point important également, on s'est rendu compte que dans les facultés, les systèmes d'aération nécessitaient, en tout cas pour quelques facultés, universités, éventuellement un peu plus anciennes que d'autres, nécessitaient impérativement d'être revues, hein, en particulier dans ces systèmes d'amphithéâtre où, en fonction d'où est-ce qu'on est dans l'amphithéâtre, la hauteur sous plafond, bien évidemment, n'est pas la même. Et donc... nous, par exemple, on est en train de travailler avec des mathématiciens à l'Université Paris-Saclay pour essayer de modéliser les rencontres entre les étudiants et potentiellement la stagnation du CO2 dans certaines zones des amphithéâtres, de telle sorte à modéliser quand on pourra reprendre les cours en amphithéâtre plein, quelles sont finalement les adaptations à faire dans les amphis. On est en train d'essayer de le faire, mais ça reste de la modélisation mathématique pour le moment.
Sachant que dans ces modélisations, ou plutôt dans cette prise en compte, dans un amphithéâtre, on va avoir des zones latentes et on va ne plus avoir ces taux de brassage suffisants. Et on rentre dans le cas du confinement, puisque on parle de confinement qui est salvateur ici au niveau de la Covid, puisqu'on est chacun un peu plus préservé les uns vis-à-vis des autres, hein, pour éviter la transmission. Mais le confinement en termes de pollution, ça veut dire qu'on augmente le taux de pollution auquel on est confronté, et c'est quelque chose qui est plutôt négatif dans ce cadre-là. Voilà. Donc, en ce qui concerne, je dirais, cette ventilation, et au niveau aussi peut-être des patients, est-ce que les réanimations ou le traitement des patients a évolué entre l'année dernière et puis la période maintenant ? Est-ce qu'on traite les personnes différemment ? On a appris, bien évidemment, je pense.
Il y a eu énormément de progrès de fait, et c'est assez naturel, hein, par rapport à une maladie qu'on ne connaissait pas il y a un an. Il est heureusement qu'on la connaît mieux et qu'on sait mieux la soigner maintenant. Ce n'est pas encore parfait, puisque typiquement, il nous manque, quand on veut soigner un virus, hein, vous avez schématiquement deux manières de soigner un virus. On a deux bras, et donc il y a un bras qui est de lutter directement contre le virus avec des molécules qu'on appelle des antiviraux. Ça, malheureusement, pour le moment, il n'y en a pas qui aient prouvé leur efficacité. Et puis, il y a un deuxième bras qui est d'essayer d'optimiser le système immunitaire contre ça. Ça, il y a certaines stratégies qui existent. Il y en a une qui est la plus importante aujourd'hui, qui est dans la prévention, c'est la vaccination. Si on arrive à faire en sorte qu'on part d'un système immunitaire qui est déjà un bras armé contre le virus, on part de mieux. C'est ce qu'on connaît depuis qu'on vaccine, hein, finalement. Donc voilà. Malheureusement, il n'y a pas de traitement, et c'est ce que je dis est à dessein et est important. Il n'y a pas d'autres traitements, notamment préventifs, qui aient pu faire la preuve de leur efficacité, en dépit de beaucoup de discussions qui ont pu avoir lieu en 2020. Il n'y en a pas d'autres, hein, pour le moment. Donc on attend de voir si les antiviraux peuvent marcher. On a les vaccins, c'est déjà pas mal. Et puis on a ensuite, en matière de réanimation et de prise en charge des formes graves, fait énormément de progrès, en particulier autour de l'été, grâce à la place de l'anticoagulation, grâce à la place de la cortisone, hein, qui sont deux traitements qui coûtent très peu cher, qui, quand ils sont donnés au bon moment, permettent de limiter la sévérité de certains patients. Malheureusement, ça reste encore une pathologie qui est extrêmement grave, et avec des caractéristiques probablement propres à chaque patient, qui font que pour un patient donné, même s'il semble être exactement le même que celui d'à côté, ben on ne peut pas toujours prédire quelle va être la trajectoire, malheureusement. Et les réanimations là-dessus sont évidemment les premières impliquées. Par rapport à la ventilation également, et par rapport à l'air, j'y reviens, mais c'est vrai que c'est la thématique. Hein, y a eu quelque chose qui est très important. On a eu une alerte au Royaume-Uni, on n'a pas eu cette alerte-là en France. Et il y a une alerte importante au Brésil actuellement sur le manque d'oxygène dans les hôpitaux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et parmi toutes les considérations qu'on peut avoir sur le fait de limiter la saturation des services de soins, la nécessité de pouvoir obtenir de l'oxygène dans les hôpitaux est quelque chose qui est important. Et pour l'instant, en France, on n'en manque pas. Je ne crois pas qu'on en manquera. Mais par contre, il y a une vraie tension au Brésil par rapport à ça. Et donc, l'oxygène dit à haut débit ne peut pas, au Brésil, être utilisé pour tous les patients qui en nécessiteraient. Et ça a été le cas au Royaume-Uni, notamment sur la deuxième vague.
Sachant que cet oxygène, évidemment, il vient nous aider à mieux respirer, mais il vient aussi nous aider à limiter les lésions. hein, puisque au niveau des poumons. Le fait d'être mieux ventilé, notamment.
Oui. Enfin, il permet en tout cas d'assurer effectivement la vie des patients. Hein. C'est l'oxygène, c'est pas ici que je vais apprendre c'est vital.
C'est ce qu'on a besoin. On dit qu'on est dans le réflexe air, hein, puisque on est obligé de respirer pour vivre. On le dit toujours, hein, on ne mange pas, au bout d'un mois, on dépérit et l'issue peut être fatale. On ne boit pas pendant 48, 72 heures et là, c'est fatal. Par contre, si on ne respire pas du tout, hein, il faut 2 minutes. Hein. Donc l'urgence est sur ce plan-là. Donc sur ce plan, je dirais sanitaire, on voit des évolutions, on voit ce qu'il en est ressorti. Et de l'autre côté, adaptation, on voit les mesures à l'extérieur, on voit au niveau des services de santé cette adaptation hein, dont je fais référence. Et cette adaptation, justement, au niveau, Jean-Luc, vous, par rapport, je dirais, à la vision politique du sujet, hein, politique au sens noble, dans la gestion de la cité, il a fallu aussi prendre cette vague un peu en pleine figure, et puis devoir s'adapter assez rapidement et prendre les bonnes décisions, ou du moins prendre les décisions permises par l'état de la connaissance aussi et les échanges nombreux qu'il y a pu avoir avec les services de santé et puis avec également d'autres.
Oui, tout à fait. Prendre des décisions, je ne sais pas si elles sont les bonnes, puisque il y a 66 millions de Français qui sont tous capables de prendre les bonnes décisions quand je les entends parler. Donc, non, ce qu'il fallait, c'est prendre des décisions à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan économique, bien entendu, puisque tout va de pair quand on a une vision politique des sujets. Enfin, moi, je voudrais justement profiter quand même de rendre hommage à nos médecins et à l'ensemble des acteurs du monde de la santé, parce qu'on a trop, des fois, parfois, je le fais, enfin, on l'a fait, on a beaucoup applaudi au début, etc. Et puis, en fait, on s'aperçoit un an après que parfois, certains de leurs conseils ne sont pas suivis, et notamment en matière de gestes barrières dont on parle,
porter le masque, tout simplement,
le masque, etc.
Le fait de venir
il y a un peu de relâchement,
aujourd'hui.
Je le dis au passage, un peu de relâchement en ce moment. C'est l'occasion aussi de rappeler que si ces règles-là sont édictées au niveau national, il faut peut-être aussi, à titre individuel, les respecter. L'avenir nous appartient à toutes et tous un tout petit peu, donc ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, se baser sur la science et non pas sur les croyances, ça me semble être quelque chose d'important par rapport à tous ces sujets, et notamment les sujets de vaccination. Après, pour en revenir plus particulièrement à ce que vous évoquez, ce qu'on évoquait sur la problématique de l'air que l'on respire, on a pendant longtemps, je pense, eu un modèle dans notre société où l'idée de se retrouver enfermé chez soi était une sorte de protection par rapport à l'air extérieur. Et donc une tendance naturelle à penser qu'à partir du moment où on est à l'intérieur, quel que soit le lieu, on est protégé de toute forme de pollution. Et ça, c'est une véritable difficulté. Pourquoi ? Parce que l'extérieur est associé à pollution liée à la mobilité. Et il ne s'agit pas de le nier, bien entendu, car Léger l'a très bien rappelé tout à l'heure, même si j'aurais pu compléter en disant aussi que l'année dernière, si on a eu aussi pas mal de particules pendant le premier confinement dans l'air, c'est aussi parce qu'on avait un chauffage au bois non performant. Je dis bien non performant, qui était utilisé de manière assez conséquente parce qu'on avait une période qui était à la fois assez sèche et assez froide, finalement, avec des matinées froides. Et donc, on y reviendra, parce que dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience, je porte, si ça vous intéresse d'en parler, je porte des sujets justement là-dessus pour faire avancer le texte de loi sur cette problématique qui est à la fois énergétique et à la fois sanitaire. On a eu ce type de mesures, mais de problèmes, mais pour revenir à l'air intérieur maintenant, on a vraiment une trop faible prise de conscience de ce qu'est la qualité de l'air intérieur. Et d'ailleurs, moi, y compris sur le plan politique, j'alerte en permanence donc le gouvernement sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, notamment au moment, et c'est très bien, et je soutiens ceci complètement, où l'on renforce les moyens, le soutien à la rénovation. La rénovation énergétique et thermique des bâtiments, c'est nécessaire pour faire réduire la facture CO2. C'est nécessaire pour réduire la facture de celles et ceux qui habitent à l'intérieur des logements, surtout quand il s'agit de personnes qui ont des revenus relativement modestes. Or, il y a 7 millions de personnes aujourd'hui qui sont en précarité énergétique, vous le savez aussi bien que moi. Mais attention, parce qu'une isolation poussée d'un bâtiment qui ne prend pas en compte la qualité de l'air intérieur que l'on respire, c'est bien souvent une qualité d'air qui se dégrade.
Parce qu'on est confiné dans une bouteille thermos, hein. Le terme revient souvent.
C'est de la moisissure, c'est des polluants chimiques dans les concentrations liées aux usages divers et variés, hein, de nos modes de vie. Ça peut aller de la cuisine aux produits qu'on utilise tous les jours, aux produits dans les salles de bain, par exemple.
Exactement. On l'avait dit la dernière fois, Jean-Luc, sur ce plateau, c'est que nos lieux de vie on parle de lieux de vie.
Tout à fait.
Mais en fait, quand on regarde la manière dont on consomme, en fait, nos logements sont des lieux de stockage.
Exactement.
Et ce stockage, eh ben, c'est tout un tas de matériel et matériaux qui diffusent. Et ces diffusions, à un moment donné, il faut pouvoir s'assurer qu'elles soient les moins nombreuses possibles, mais également qu'on les évacue et qu'elles n'impactent pas notre santé.
Et ça, c'est aussi valable dans nos logements personnels que dans des logements collectifs, dans des lieux collectifs. Et je pense
bureaux.
Notamment aux bureaux, mais je pense aussi aux écoles. Je pense aux salles de crèche. Nous avons trop d'écoles en France où on a un problème de ventilation mécanique contrôlée de l'air. Aujourd'hui, les problèmes de ventilation sont aussi importants que les problèmes d'isolation. On a réussi à avancer donc, sur le diagnostic de performance énergétique des bâtiments. Il faut aller plus loin. On y reviendra sûrement. Et moi, je porte l'idée qu'il faut aller sur un diagnostic de performance de la qualité de l'air intérieur. C'est un sujet qui ne fait que démarrer en ce moment. Et on aura besoin de franchir beaucoup d'étapes pour arriver à quelque chose d'optimal dans ce pays.
Alors, on va justement sur ces points positifs, parce qu'on on va l'évoquer après la petite pause musicale. Un choix musique, hein, nouvel invité ici, Nicolas Noël, cher docteur. On profite, vous avez choisi Southwick Original, Ace of Aces, The Fearless Flyer, pour faire la petite pause. Et puis, Ace of Aces, c'est l'As des As. Donc ici, on a quand même des As autour de la table. il faut le dire. Et puis, on parlait d'écouter quelque part les sachants. Et ben, c'est bien de les écouter. Et c'est bien aussi, je dirais, de prendre conscience et chacun après d'avancer un peu plus éclairé et un peu plus pour mieux respirer. À tout de suite.
Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Oui, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à nouveau sur Élémentaire, mon cher Nico. Et on parle justement, cette liberté, on en a besoin pour parler de l'air. On a, dans la première partie de l'émission, on vient d'évoquer, je dirais, les constats de ce qui s'est passé depuis un an au niveau de la santé, au niveau de l'air extérieur, au niveau, je dirais aussi, de la prise en compte réglementaire de ces points. Et puis, qu'est-ce qui est marquant à retenir. Moi, je voulais aussi parler dans cette deuxième mission de l'avenir, puisque c'est ça qui nous intéresse évidemment. Il y a beaucoup de sujets. Dans le premier et dans les points positifs, parce qu'on est là que pour positiver, il y a la création de l'Association française de la ventilation. Cette Association française de la ventilation, c'est quand même quelque chose majeur, puisque c'est, je dirais, tous les acteurs de la ventilation. On en parlait, Nicolas, avec vous, justement, que dans les hôpitaux, hôpitaux, c'était nécessaire, dans chacun des bâtiments, que cet air extérieur pollué, il ne faut pas s'en préserver en se masquant dedans, mais au contraire, il faut brasser et diluer tout cela. Alors, cette Association française de la ventilation qui a été créée le 27 janvier, dont le président est Pascal Housset, et on salue Pascal, puisque c'est quelque chose aussi à cette émission qu'on aime bien mettre en avant, puisque cette émission, elle est née, cette association, elle est née ici, à la discussion du 18 septembre 2019, lors de la Journée nationale de l'air, entre toi et Pascal. Justement, toi, Jean-Luc.
D'ailleurs, j'ai parrainé ce lancement de l'Association française de ventilation en janvier dernier.
Voilà, donc on sent vraiment une envie. Là, on sait aussi que du côté de la Fédération française du bâtiment, il y a des formations spécifiques maintenant sur le métier, les métiers de la ventilation. C'est quelque chose qui se structure, c'est très important. L'air, sous prétexte qu'on ne le voit pas, il est invisible. Il faut le rendre visible et c'est par ces professionnels qu'on aura aussi de meilleures prises en compte. On a également un élément que je trouve assez intéressant et qui est assez bien fait, c'est Reco Santé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit outil sur lequel on peut s'inscrire. C'est porté par le DINUM. Alors le DINUM, c'est quoi? C'est la délégation interministérielle du numérique, qui vient directement en suivi du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement et du cabinet du Premier ministre. Et ça repose sur quoi? Ça repose tout simplement sur, vous rentrez votre code postal à tel endroit, vous dites, vous avez une reconnaissance chaque jour de le niveau de pollution du lieu où vous êtes, et il y a également le niveau des pollens et le niveau des allergisants. Ça, c'est assez important pour se préserver. Moi-même, qui suis sensible aux pollens, je vous avoue que c'est assez sympathique de retrouver cette information. Et il y a aussi des petits conseils. Et pour inciter, ou plutôt pour accompagner tout un chacun à avancer sur ce sujet, il y a un petit point pour finir qui nous dit, est-ce que vous allez mettre en place ce conseil qu'on vous a donné? En fait, on ne dit pas écoutez ce qu'il faut faire, on dit devenez acteur de ce qu'il faut faire. Et c'est là toute la différence. Alors, sur ces sujets notamment, on va retrouver cette prise en compte à l'extérieur. Vous avez aussi plein de petites choses à nous dire. On parle des pollens, on parle de l'extérieur. On va revenir vers vous, Karine. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur justement ces évolutions?
Alors, déjà, on fait de l'air intérieur avec de l'air extérieur. Et ça, c'est peut-être la première chose à dire, c'est qu'en fait, on prend la qualité de l'air extérieur impacte directement la qualité de l'air intérieur, à laquelle on va rajouter un certain nombre de pollutions. Effectivement, si on fume, si on stocke des produits typiquement des insecticides ou autres chez soi, enfin voilà, donc on fait de l'air intérieur avec l'air extérieur. Et c'est d'autant plus important d'agir sur cet extérieur. Je voulais revenir aussi sur la question de la protection. Alors, les bâtiments ne protègent pas. Mais la voiture ne protège pas non plus, et c'est dans la voiture qu'on est les exposés aux niveaux les plus importants. C'est vraiment dans la voiture, l'habitacle ne protège pas de la pollution. Et donc, comme on fait de l'air intérieur avec l'air extérieur, agir sur l'air extérieur est d'autant plus important. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Il y a les zones de faible émission mobilité que Jean-Luc a porté aussi avec la LOM. Et oui. Ça, c'est sur les agglomérations et c'est maintenant, ça se met en place maintenant. On a démontré à côté Air Paris qu'en plus, en améliorant la qualité de l'air en général, on allait avoir aussi un co-bénéfice sur tous les établissements qui reçoivent du public sensible, et notamment les hôpitaux, les crèches, etc., qui sont le plus souvent à côté des routes en Île-de-France. On a des choses aussi par rapport aux particuliers. L'air intérieur et l'air extérieur est très lié, et Jean-Luc le rappelait également sur la question du chauffage au bois. C'est un enjeu de précarité. C'est un enjeu aussi par rapport au changement climatique, où le chauffage au bois a été mis en avant beaucoup, comme le diesel, il y a aussi quelques années. Et puis, avec des appareils qui sont peu performants.
Et avec des subventions pour aller chercher du chauffage bois. Et on est peut-être en train de s'apercevoir maintenant qu'il faut limiter ça.
Voilà. Mais donc, il y a un impact direct sur la pollution atmosphérique qui a été vu au moment du confinement, puisque effectivement, le chauffage, comme l'agriculture, n'était pas touché. Donc, on le voit très bien dans les sources de pollution, mais également pendant les épisodes hivernaux cette année. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui évoluent, notamment au niveau européen, avec une révision de la directive européenne et ses différentes échelles au niveau européen, au niveau national, au niveau local et au niveau individuel. C'est ce qui est mis en place pour améliorer la qualité de l'air extérieur et avoir un co-bénéfice sur la qualité de l'air intérieur.
La directive R 2022, c'est ça.
On espère.
On espère. Il faut œuvrer, en tout cas pour. D'autres points, justement, sur cette qualité de l'air extérieur. Est-ce que, du coup, dans la prise en compte, Jean-Luc le disait il y a quelques instants, on s'aperçoit que cette qualité de l'air n'est pas prise assez encore en connaissance et à bras-le-corps pour faire mieux. On le voit depuis quelques années, on y va crescendo, ça fait 2 ans et 2 ans et demi que, par exemple, l'émission existe, et on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup plus d'initiatives. Hein. On va retrouver ces initiatives vertueuses. On retrouve d'autres initiatives. Moi, je dis attention à ce qu'on fait, parce qu'on dit de plus en plus, on va mesurer énormément et on va traiter. Hein. On rappelle que c'est sûr qu'il y a un business model qui peut se poser dessus, qui est extrêmement intéressant, mais il faut le garder à l'esprit que ce qu'on peut créer pour faire les mesures aussi peut amener aussi quelquefois des générations de polluants. Il faudra discerner le bon grain de livret sur ce sujet-là. Et notamment, est-ce que vous, du côté d'Air Paris, pour cette prise en compte plus forte, vous avez multiplié peut-être les points de mesure ou affiné? On sait que les particules plus fines sont prises en compte également. Dites-nous-en un petit peu plus.
Alors la mesure, elle se fait avec des stations de référence, notamment par rapport aux directives européennes. Et quand vous savez que chaque microgramme a un impact sur la santé, qu'il y a des contentieux juridiques, il y a 2 contentieux avec la Commission européenne, 1 avec le Conseil d'État, qui a un impact aussi médiatique, il y a un impact politique. Cette question de pollution de l'air, elle est vraiment très importante, notamment en Île-de-France. Vraiment, les mesures doivent être des mesures qui sont à la fois indisputables, hein, irréprochables, et puis qui sont ensuite utilisées par toutes les parties prenantes. L'État dans ses plans d'action, les collectivités, les acteurs économiques, y compris pour développer du business et des activités, et puis les associations de protection de l'environnement, et les chercheurs et la santé. Ces stations de référence sont complétées par des outils de modélisation et on est capable d'apporter une information toutes les heures pour 5 polluants à 10 mètres près dans Paris, ce qui est à ma connaissance unique au monde, de faire des prévisions de la qualité de l'air. C'est complété par des campagnes de mesures, soit sur des zones de hotspot, soit pour des polluants pour lesquels on a besoin de renforcer les connaissances parce qu'ils ne sont pas encore réglementés, mais on sait déjà qu'ils ont un effet sur la santé, c'est les fameuses particules ultra fines dont je parlais tout à l'heure. Et donc le dispositif de surveillance, c'est tout ça. Et on de plus en plus dans des initiatives, que ce soit avec la région Île-de-France, avec la mairie de Paris ou avec la métropole, on travaille aussi sur la participation citoyenne. Les gens veulent faire des mesures, veulent contribuer à informer sur la pollution atmosphérique. On a un petit outil qui a été lancé qui s'appelle Pollinaire, où les gens peuvent faire des déclarations sur les pollens. Mmh. On a travaillé sur la participation dans le 20e arrondissement et en air extérieur, et surtout en air intérieur, des micro-capteurs qui ne sont pas suffisamment fiables pour l'air extérieur, notamment d'un point de vue réglementaire, permettent pour certains, en tout cas de faire de la sensibilisation et de changer les comportements, y compris en air intérieur, de rendre le visible l'invisible, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est des outils qui sont extrêmement, extrêmement utiles. Travailler aussi sur des mesures, par exemple, de CO2, simplement pour l'aération. Alors on ne parle pas de filtration, mais simplement de savoir quand est-ce qu'il faut aérer. Et avec toujours derrière ces nouvelles technologies, la volonté d'évaluer avec un dispositif qui s'appelle AirLab, de pouvoir vraiment évaluer pour les décideurs ou les ONG qui utilisent ces dispositifs, quel est le coût-bénéfice, combien ça coûte, y compris d'un point de vue environnemental, avec parfois des capteurs qu'il faut changer tous les ans ou tous les 18 mois.
Regarder de plus en plus justement. Exactement. Ce coût environnemental.
Le coût environnemental, le coût financier, et qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça permet, soit en termes d'amélioration de la qualité de l'air, soit en termes de changement des comportements.
Et les comportements à changer par le biais des alertes, c'est de se retrouver notamment aussi dans des salles de classe ou des amphithéâtres, comme le disait Nicolas, et de se dire, effectivement, là, on a peut-être une alerte, et il faut que les systèmes passifs deviennent actifs et créent cette ventilation.
Ou d'ouvrir la fenêtre.
Alors, un amphithéâtre, ce n'est pas des fenêtres que l'on ouvre. Par exemple, chez soi, on a assez peu de ventilation double flux en France, en installation. Mais il faut savoir qu'une double flux, elle a aussi des fonctions boost. Et on pense à cette ventilation double flux pour rafraîchir, plus facilement l'été. Mais on oublie aussi que quand on est chez soi, notre maison, elle a une certaine forme, elle a un certain volume. Mais quand on reçoit du monde chez soi, voilà, par le Covid, on en reçoit moins. Hein, mais quand on recevait du monde, on va en recevoir un peu plus tard, puisqu'on sait que ça va aller mieux, à un moment donné, ces appareils-là doivent aussi suppléer pour dire « vous êtes nombreux ». Donc, par effet, il va falloir ventiler un petit peu plus au vu du nombre également. Donc ça, c'est important. Du point de vue, justement, de ces réglementations, de ces travaux importants, hein, vous parlez de travail réglementaire et de travail parlementaire dessus, Jean-Luc, quels sont les axes de progrès, de travail, d'innovation ?
Ils sont tellement nombreux qu'il faudrait une émission entière pour en parler. Ce qui est certain, c'est qu'on a réussi ces derniers mois, ces dernières années, à, je crois, à fédérer un petit peu les énergies autour de ces sujets. Karine Léger parlait à l'instant donc, de la mesure des particules fines. Je pense par exemple à l'évolution de l'indice Atmo avec maintenant l'obligation non seulement de mesurer, mais en plus de communiquer sur la mesure des particules plus fines, qui sont les PM2.5, plus fines que les PM10. Donc, qui nous donne une indication plutôt proche de la réalité de ce qui se passe donc, en matière de différentes sources pour amener ces particules, hein, aussi bien l'agriculture, l'industrie, chauffage au bon endroit performant, dont parlions, et puis aussi la mobilité. Donc cet indice Atmo, vous voyez, ça a été le fruit d'un travail collectif au niveau du Conseil national de l'air. Donc moi, j'ai simplement transformé l'essai à la fin en portant donc, la décision, la proposition du Conseil national de l'air auprès des ministres à la fois, à l'époque Elisabeth Borne et Barbara Pompili. Et d'ailleurs, je les remercie parce que toujours tendance à taper sur les politiques, c'est tellement facile. Mais je les remercie de non seulement nous avoir fait confiance, mais en plus d'avoir traduit dans des arrêtés concrets la mise en œuvre de cet indice qui aujourd'hui est nécessaire. Et aujourd'hui, la volonté d'ailleurs de la ministre, c'est aussi de suivre et de pousser au niveau donc, de l'Europe ce qui va se passer en 2022 avec l'idée d'aller vers donc, des directives plus draconiennes en matière de pollution de l'air et tendre vers les seuils qui sont proposés par l'OMS, notamment je pense au niveau des particules, puisque sur les oxydes d'azote, on est déjà aligné. Mais c'est sur les particules qu'on a un petit écart.
Et cet écart, il a été évoqué hier, notamment dans l'actualité. Moi, je l'ai retrouvé dans quelques textes où la France va, je dirais, s'approcher des directives de l'OMS sur ces seuils. Parce que si on parle bien de seuils et de volume, de particules qu'il va falloir traiter.
Et sur ces particules, si je peux me permettre, je voulais rajouter qu'on a la problématique de lutter contre les différentes sources, réduire les sources, parce qu'il faut réduire l'exposition, mais il faut aussi réduire les sources d'émissions, bien entendu. Donc, on a beaucoup parlé de la mobilité. Moi, j'ai eu l'honneur d'être rapporteur de la loi mobilité, notamment de la partie développée des mobilités plus propres et plus actives, où on a bien vu que les mobilités, on va beaucoup jouer sur les oxydes d'azote, un petit peu moins sur les particules, même si les mobilités sont importantes, il n'en reste pas moins que ce n'est pas plus de 20%. En revanche, on n'a pas encore suffisamment travaillé sur le chauffage au bois non performant. Vous l'avez un petit peu évoqué, qu'il soit collectif ou individuel. On a là un axe d'amélioration fondamental, à la fois pour l'air intérieur et pour l'air extérieur. Donc les deux, intérieur, extérieur. Et parce que les deux, malheureusement, se mélangent, ou heureusement, j'en sais rien. Et donc, dans le cadre des travaux du Conseil national de l'air, on est associé auprès du ministère donc sur une feuille de route donc, sur ces aspects-là, qui verra le jour, qui sera publié en mois de mai ou en mois de juin par la ministre Mme Pompili et probablement le président du Conseil national de l'air que je suis. Mais dans cette feuille de route, nous avons besoin, de mon point de vue, d'aspects légistiques, donc que la loi vienne intégrer un certain nombre de mesures. Et donc, c'est des mesures que je porte actuellement dans le cadre du projet de loi climat et résilience. Ce qui me permet de dire que cette problématique, par exemple, du chauffage au bois non performant, d'un point de vue à la fois énergétique et d'un point de vue, donc du coup, climatique et d'un point de vue sanitaire, a été un petit peu oubliée par nos 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Comme quoi, ce n'est pas toujours l'alpha et l'oméga de l'avenir, de la transition écologique. Il y a des choses très bien dans ce qu'ils ont proposé, mais ils ont aussi oublié. Je ne parlerai pas du fait qu'ils ont oublié le fluvial ou qu'ils ont oublié les deux heures, les problématiques du fret pour la marchandise, fret aérien, pardon. Donc, du coup, d'ailleurs, moi, ce sont trois sujets sur lesquels je porte des amendements, vous voyez. Et donc, pour en revenir à la problématique de l'air, eh bien, dans le cadre de ce projet de loi, dont l'examen débute en séance publique ce soir, après les travaux de commission qui se sont terminés il y a une dizaine de jours, eh bien, je vais proposer un certain nombre d'amendements pour mieux intégrer la prise en compte de la ventilation dans les bâtiments, mieux intégrer la problématique du chauffage au bois, donner aux préfets dans les zones protection où il y a des plans de protection de l'atmosphère, comme en région parisienne, région lyonnaise, un endroit où il y a des contentieux, où il y a des problèmes, donner aux préfets des moyens.
Un jour,
voilà, entre autres, pour vraiment donner des moyens pour que l'idée de ce que je propose, c'est que de 2020 à 2030, on baisse vraiment de manière draconienne donc les émissions de PM2.5, notamment de 50%, et pour ça, on a des leviers. On le sait, il va falloir jouer, notamment entre autres sur le chauffage au bois. Et donc, c'est ce que je propose d'inscrire dans la loi. Et aujourd'hui, je suis en échange à la fois avec mes collègues et le gouvernement pour que ceci ce ne soit pas que des tentatives, mais que ce soit des essais transformés.
Ah, on reconnaît le rugbyman.
Entre autres.
Un petit peu malheureux ce jour dernier.
On ne reviendra pas.
C'est ça.
La douche fut écossaise.
Voilà, la suite écossaise. Revenir également... Il y a une petite actualité aussi qui est tombée ce matin, notamment la Commission européenne qui va durcir les vérifications sur les allégations environnementales des produits ou des procédés, puisqu'à savoir, presque 50% seraient fausses. C'est-à-dire qu'on parle d'éco-blanchiment. En fait, on parle d'environnement pour se donner une belle image. Donc là, on va rentrer dans une ère, et ça fait quand même, ça peut faire peur un petit peu de se dire, en fait, on est dans un monde où tout le monde ne fait pas ce qu'il faut, mais on est plutôt là sur de l'environnemental, et dans l'environnemental, automatiquement, on va toucher à la qualité de l'air, hein, puisqu'on va avoir des produits, des matériaux un peu plus vertueux. Et là, la Commission européenne le prend vraiment à bras-le-corps. Donc on entendra encore parler ça dans quelques temps. Il y a quelques chiffres quand même qui sont forts. Comme je dis, 50% des allégations seraient fausses et non vérifiables, ou même pire, c'est-à-dire qu'on va dire que nos produits sont bons, mais sans pouvoir le prouver. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Alors, pour parler des produits qui sont bons et pour parler de notre organisme... Prenons un exemple tout bête, je fais appel à vous Nicolas sur la santé. À partir du moment où une bonne qualité de l'air, quels sont les bénéfices pour notre corps, pour notre santé, de penser à s'aérer, de penser à marcher, peut-être une activité physique déjà, je dirais qu'on pourrait qualifier de basique, mais qui ne l'est pas du tout, hein, parce qu'une bonne marche a énormément de vertus. Un bon air sur notre corps, ça se voit comment ?
C'est une bonne question. Il y a plein de manières de le voir au niveau sanitaire. Effectivement, l'augmentation de l'activité physique, ça peut être que bénéfique. Et donc, d'avoir une bonne qualité de l'air extérieur, ça permet d'augmenter l'activité physique, qu'il s'agisse de la marche, hein, typiquement, ou du vélo. Hein. C'est vrai que même si ce n'est pas forcément le poste le plus important de réduction des particules, le fait de faire du vélo plutôt que de prendre sa voiture, notamment pour aller au travail ou pour se déplacer, c'est quand même quelque chose qu'on a vu fleurir au niveau de l'année 2020. On se demande presque pourquoi en France on était aussi en retard que ça par rapport à certains de nos voisins européens pas si éloignés. Et ça peut être que bénéfique à plein de niveaux. Ça réduit la pression artérielle, ça augmente les performances cardiaques, ça améliore les capacités ventilatoires. Et ça, si on transpose ça immédiatement au niveau du Covid, on imagine bien que si on est mieux portant à l'origine, tout ce que je viens de citer là, ce sont des caractéristiques qui peuvent faire émerger des Covid plus sévères. C'est pas toujours le cas, mais enfin, mieux vaut être moins hypertendu, moins en surpoids et avec des meilleures performances cardio-respiratoires pour supporter une telle maladie. Mais au-delà de ça, c'est bénéfique sur du très long terme pour plein de raisons. L'activité physique est donc la meilleure qualité de l'air. Et puis, plus proche de nous, mais il y a quand même quelque chose aussi qu'on a découvert là avec la qualité de l'air. Alors, c'est difficile de savoir si c'est uniquement la qualité de l'air ou le rôle du masque et quel est le rôle du masque. Enfin, je crois qu'on vient de vivre quasiment la première année sans grippe. Ou quasiment sans grippe. Il y a eu un petit peu plus d'efforts de vaccination antigrippale à l'automne, mais enfin, pas non plus suffisamment pour expliquer qu'il n'y ait quasiment pas eu de grippe. Et les réseaux Sentinelles sont assez clairs là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est autant lié à la découverte, en quelque sorte, que s'aérer, c'est bien. Et puis, évidemment, le port du masque. Donc, il y a plein de choses qui sont très positives par rapport à ça, d'un point de vue sanitaire.
Alors justement, du point de vue sanitaire, quelque chose qu'il ne faudra pas oublier, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission, mais on pourrait repartir encore pour du temps, tellement c'est un, passionnant, deux, savoir pour mieux agir, c'est toujours du bonheur. Et puis, on n'oublie pas le masque, bien évidemment, vous en parlez Nicolas, on n'oublie pas peut-être la petite bouteille de gel hydroalcoolique, hein, puisque quelque part aussi, le fait de limiter ses contacts, on sait qu'on a des contacts assez fréquents envers notre visage ou même nos yeux, qui sont des sources d'entrée de ce virus en nous. Et surtout, j'aimerais faire deux petites présentations, puisqu'on parle de cette prise en compte de la qualité de l'air. On y va de plus en plus et on sent que ça, c'est prégnant. Et dans quelques temps, d'ailleurs, Jean-Luc, vous y avez participé. Vous avez ici un livre qui va sortir qui s'appelle « La qualité de l'air intérieur pour les nuls », aux éditions First. Ça sort dans quelques temps, il suffira d'aller dans toutes les bonnes crèmeries pour le retrouver. C'est un livre qui va parler notamment de qu'est-ce que la qualité de l'air, quelles sont les affections que l'on peut avoir et qu'on pourra éviter, mais surtout quels sont les bons gestes, les bonnes pratiques dans notre intérieur, quels qu'ils soient. Et là, ça va être, je pense, aussi un facteur aidant, je dirais, de la prise de conscience. Il faut qu'on soit tous facilement à se dire, mais c'est pas compliqué de bien faire pour la qualité de l'air. Il suffit juste un petit peu chaque jour. On parlait de marcher, on parlait de mettre son masque, hein, on parlait peut-être de ne pas prendre son véhicule, mais plutôt de prendre son vélo. Tous ces points que l'on retrouve. On arrive à la fin de l'émission. Le petit mot de la fin de chacun. Je vais commencer par vous, Jean-Luc. Il nous reste 3 minutes.
Écoutez, je vais essayer de faire rapide. Les chiffres sont là. 7 millions de morts par an prématurés, donc liés à la qualité de l'air, 500 000 en Europe, 50 000 en France. On est tous à la fois responsables et victimes. Donc on est tous des acteurs, on peut tous agir. Et donc on sait qu'il y a différentes sources. On a parlé d'agriculture, on a parlé du résidentiel, on a parlé d'industrie, on parle des mobilités. Mais on a tous un rôle à jouer sur chacun de ces leviers. Au niveau de mon action politique, je remarque que sur la loi des mobilités qui a pu faire avancer le vélo, entre autres, ou autre chose, la loi anti-gaspillage, économie circulaire, ou la loi climat et résilience qui a lieu en ce moment, on est dans l'écologie de l'action, l'écologie du quotidien. C'est ce qu'on met en œuvre, mais il y a des directions qui sont lancées. Il faut aussi que chacune et chacun s'en saisisse. Et puis je finirai en disant qu'on a beaucoup avancé ces derniers temps, pour revenir sur l'air intérieur, sur les diagnostics de performance énergétique des bâtiments. Il faut maintenant aller vers ce que j'appelle moi les diagnostics de performance de la qualité de l'air intérieur des bâtiments. On en parle dans le bouquin dont vous venez de faire un peu la présentation. Mais écoutez, voilà, moi je suis résolument engagé à vos côtés, à vous toutes et vous tous, et puis je suis prêt à contribuer encore au plus pour qu'on puisse améliorer la qualité de l'air que nos concitoyens respirent.
Engagement et avancer, c'est ce qui nous fera mieux respirer. Karine.
Pour moi, je reprendrai les paroles du président Macron l'année dernière, pratiquement un an jour pour jour dans le Financial Times, où il expliquait qu'après ce que l'on a fait en termes d'amélioration de la qualité de l'air, malheureusement à cause du confinement, que les Français ne voudraient plus vivre avec un air de mauvaise qualité. Et donc, c'est à nous de jouer pour préparer le monde d'après.
Préparons le monde d'après. Et au niveau de notre santé ou de notre bien-être, puisque quelque part, respirer, c'est avant tout bien-être. Nicolas ?
Le mot de la fin, effectivement. Le bien-être et bien respirer, c'est important. Il faut faire de l'activité physique, on en a parlé. Moi, je voudrais surtout finir sur une note optimiste qui est de dire qu'on va y arriver. La situation qu'on vit depuis un an est une situation évidemment particulière à plein d'égards, soit pour ceux qui sont infectés, soit pour les proches de ceux qui sont infectés, soit même pour ceux qui ne sont pas du tout infectés, qui en sont éloignés. Et chacun a à sa portée la possibilité de faire évoluer les choses en respectant les gestes barrières, en se faisant vacciner et en faisant en sorte qu'on arrive à endiguer cette épidémie. Il y aura peut-être besoin d'en passer par des situations encore un petit peu compliquées, mais on va finir par y arriver, et ça, c'est une certitude. La loi des épidémies dans l'histoire de la médecine a toujours été la même. On a toujours fini par sortir des épidémies, toujours. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Plus rapide possible, bien évidemment, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'on va y arriver.
Donc ça veut dire ouvrons la fenêtre, aérons, et on sait que dehors, la solution est proche de nous. Karine, merci beaucoup. Karine Léger, d'ailleurs, Parif. Jean-Luc Fugit, merci à toi. Oui. On se tutoie parce qu'il y a longtemps qu'on se connaît aussi. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. Je sais que vous allez nous quitter très vite pour retourner à l'hôpital parce que la situation est, vous le disiez, très tendue. Nous vous libérons. Merci encore à tous les personnels de santé, à tous ceux qui œuvrent pour cette qualité de l'air. Chaque jour, un petit peu, mais il faut le faire et on va vers le bien faire. Cette émission élémentaire est terminée. Chers auditeurs, chères auditrices, à très bientôt. Vous retrouvez bien entendu sur le podcast de l'émission. Et à très bientôt pour d'autres aventures et bien faire pour mieux respirer. Merci, au revoir.
Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.